Tôt le matin du 29 septembre 1997, les autorités du comté de Placer reçoivent un appel les avisant qu'une femme marche le long de l'autoroute 80 à Auburn, en Californie. Elle dit avoir été kidnappée et violée.
Le répartiteur m'a appelé à la maison pour me demander de me rendre à l'hôpital. La victime était ébranlée, bouleversée même. Mais elle était soulagée de s'en être tirée vivante.
Elle révèle à la police ce qui lui est arrivé.
Elle revenait de l'école. Elle marchait sur la rue Washington à Reno, au Nevada, lorsqu'elle a entendu un véhicule s'avancer derrière elle. Elle a déclaré aux agents qu'une femme était au volant de la fourgonnette et qu'un homme lui expliquait comment se rendre à l'autoroute.
Elle ignorait si la femme était elle aussi tenue prisonnière. Elle a tenté d'obtenir un peu de soutien ou l'aide de la conductrice de la fourgonnette. Mais la victime a bientôt compris que la femme était la complice de l'homme dans son enlèvement. Puis, ils l'ont emmenée de l'autre côté des montagnes, à Auburn. Pendant sa captivité, la femme a été victime de plusieurs agressions sexuelles.
Elle a tenté de garder son calme tout au long de cette épreuve, mais elle était morte de peur, car elle croyait qu'il allait la tuer.
Ils écoutaient une chanson de Johnny Cash, Folsom Prison Blues, dans laquelle il chante « J'ai abattu un homme à Reno, juste pour le regarder mourir ». Elle lui a demandé s'il avait déjà tué quelqu'un. Elle avait peur de la réponse, mais il a répondu non.
Je crois qu'on peut décrire ces deux criminels comme des prédateurs sexuels. Ils avaient des comportements sexuels sadiques, c'est-à-dire qu'ils prenaient plaisir à voir souffrir leurs victimes, à les humilier et à les dominer. Ils étaient incapables de ressentir de la compassion pour un autre être humain.
Elle voulait se rappeler le plus de détails possible, afin de pouvoir identifier l'homme si elle survivait à cette épreuve.
Après plusieurs heures infernales, le couple la dépose enfin sur une route déserte de la Californie, à près de 150 km de l'endroit où ils l'ont enlevée.
La fourgonnette s'est arrêtée près d'ici. Ils lui avaient ordonné de s'habiller, puis ils lui ont remis son sac à main et son sac à dos.
Ils lui ont dit de ne plus se promener seule la nuit à Reno. Ils lui ont même dit qu'elle avait eu de la chance d'avoir été ramassée par des gens aussi gentils. Puis, ils l'ont laissé sortir de la fourgonnette, lui ont dit de se retourner, de compter jusqu'à 20, et ils sont repartis.
La femme marche en direction de l'autoroute, où elle fait signe à une voiture de s'arrêter. Malgré son état de choc, la victime fournit une description détaillée de ses ravisseurs.
Elle s'est assurée de bien regarder autour d'elle afin de se souvenir des visages qui l'entouraient. Elle a bien écouté les voix. Elle se souvenait aussi des odeurs et elle avait remarqué que l'homme appelait la femme Mickey.
Les criminels sont beaucoup plus dangereux à deux, car ils sont prêts à commettre des actes beaucoup plus graves qu'ils ne le feraient s'ils étaient seuls. ils s'encouragent mutuellement dans leur comportement déviant. Leur conduite dégénère rapidement, car ils justifient les idées et les actes de l'autre. Et ils finissent souvent par poser des gestes beaucoup plus graves qu'ils ne l'auraient fait seuls.
La police dresse des portraits robots et émet un avis de recherche pour retrouver les suspects ainsi que leur fourgonnette.
Après avoir envoyé les portraits robots aux médias de la Californie et du Nevada, nous avons commencé à suivre les pistes que nous avions trouvées. Nous avons passé la région où la victime avait été enlevée, au Pengfin. Nous avons fait du porte-à-porte dans tous les commerces et toutes les résidences de la région afin d'obtenir des renseignements.
Comme la victime a traversé la frontière du Nevada, on doit aviser le FBI.
Il est très rare de voir un homme et une femme agresser sexuellement une étrangère. Ça nous a donné la chair de poule, car nous savions que nous avions affaire à deux prédateurs très dangereux. Et il y avait déjà eu, par le passé, des couples de meurtriers célèbres dans la région. Dans les années 80, Gerald et Charlene Gallego ont commis des enlèvements, des viols et des meurtres dans la région de Sacramento. Je crois qu'ils ont fait environ 10 victimes.
Les Gallego s'étaient débarrassés d'une de leurs victimes à Clipper Gap, la même ville où la jeune victime de kidnapping et de viol de Reno a récemment été libérée. Les autorités craignent d'avoir affaire à des imitateurs.
Ce type d'affaire est traité en priorité par le FBI, car il est très probable que les criminels s'en prennent à une autre victime. Il faut donc les retrouver aussitôt que possible. Nous nous consacrons donc entièrement à ces affaires. Nous suivons toutes les pistes, nous trouvons des preuves, et nous menons des interrogatoires dès que nous le pouvons.
Plus d'un mois s'écoule sans que leurs efforts ne portent fruit. L'affaire va rejoindre les autres cas non résolus. Le 3 novembre 1997, à Pleasanton, en Californie. C'est une soirée tranquille au travail pour Linda Marshall, âgée de 17 ans.
Il y a eu une autre agression sexuelle. Deux personnes ont tenté de violer une femme. Ils l'ont battue et ont pris des photos d'elle. Puis, ils lui ont dit qu'ils les feraient circuler si elle révélait ce qu'il lui avait fait et qu'il la ferait chanter. Bien sûr, elle avait peur qu'il la tue.
Linda est relâchée et se rend immédiatement au poste de police. Mais plutôt que de dire la vérité sur ses agresseurs, elle choisit de mentir, de peur que ses agresseurs ne fassent circuler les photos qu'ils ont prises d'elle. Elle affirme s'être fait enlever et violer par trois hommes. Les policiers trouvent son histoire louche, et lorsqu'ils lui demandent d'expliquer les contradictions de son récit, elle retire ses accusations.
Ces gens doivent souvent poser des gestes de plus en plus élaborés, de plus en plus graves et diversifiés, afin de ressentir la même satisfaction qu'au départ. Leur fantasme et les actes qu'ils posent pour satisfaire leur désir sexuel exercent un attrait si puissant qu'ils ne peuvent y résister. Plusieurs de ces criminels qui posent des gestes de violence ou de sadisme extrême sont incapables de s'arrêter. Do not stop on their own.
Le 19 novembre 1997, la police de Sacramento reçoit un appel à propos d'un viol. Des agents se rendent à la résidence afin de recueillir une déclaration. Deux adolescentes déclarent aux policiers qu'elles ont été violées à deux occasions différentes par le même couple.
Le plus choquant, ça a été d'apprendre qu'une des jeunes filles avait été agressée par sa propre mère, qu'il l'avait ensuite offerte à son copain pour qu'il la viole à son tour.
Quelqu'un capable d'offrir son propre enfant à un autre délinquant sexuel et de prendre part à l'agression et aux sévices est tout aussi coupable que le délinquant. Ce type de personne partage à coup sûr les mêmes fantasmes tordus et les mêmes désirs que le délinquant sexuel. C'est aussi le type de personne incapable de ressentir de la compassion ou de l'affection pour son enfant.
L'histoire ne s'arrête pas là.
Les deux adolescentes nous ont dit aussi qu'elles avaient entendu parler du kidnapping et du viol de Reno à la télévision quelques semaines auparavant, et que les descriptions des suspects et de leurs véhicules correspondaient à celles de leurs agresseurs.
Les jeunes filles révèlent le nom de leur agresseur aux enquêteurs. Il s'agit de James Froggy Davejo et de Michelle Mickey Michaud.
Un ou deux jours après le kidnapping et le viol de Reno, Michaud et Davejo ont appris qu'ils étaient recherchés par la police lorsqu'ils ont vu le portrait robot de Davejo dans les journaux et à la télévision. Ils savaient donc dès le départ que la police pourrait très bien les soupçonner.
J'ai consulté le dossier des deux suspects et j'ai découvert que Davejo avait récemment été ajouté à la liste des délinquants sexuels de Sacramento. Michelle Michaud, quant à elle, était prostituée et avait été arrêtée à plusieurs reprises pour prostitution.
Les policiers ne sont pas surpris par le lourd passé criminel des deux suspects.
James Anthony Davejo est né en 1960 à San Francisco, en Californie. Il a eu une enfance très malheureuse. Sa mère avait une personnalité très autoritaire à la maison. Il a commencé à commettre des délits sexuels très jeune. Il avait beaucoup de problèmes psychologiques et il traînait avec lui beaucoup de rage et de colère, surtout à l'endroit des femmes. Michelle Michaud avait deux ans de plus que James Davejo. Elle a grandi dans la région de Sacramento et elle s'est enfuie de chez elle à l'âge de 17 ans. C'est à ce moment qu'elle a rencontré un proxénète pour qui elle a commencé à faire la rue. Elle a fini par travailler dans les salons de massage.
James Davejo et Michelle Michaud se sont rencontrés en octobre 1996 dans le bar où Davejo travaillait.
C'est leur dépendance à la méthamphétamine qui a rapproché Michaud et Davejo.
La méthamphétamine est un psychostimulant qui peut s'injecter, se sniffer ou se fumer. Les principaux effets sont l'euphorie et une augmentation de l'impulsivité. Il peut aussi y avoir paranoïa, agressivité, comportement violent et délire. La personne peut avoir une perte de contact avec la réalité et son système de valeurs peut être affecté. Si le toxicomane n'a pas un système de valeurs très solide, celui-ci va rapidement dégénérer et il est plus probable que le consommateur pose des gestes irréfléchis.
Michaud et Davejo avaient tendance à projeter l'un sur l'autre ce qu'ils recherchaient chez un partenaire. Michaud a même déclaré plus tard qu'elle voyait Davejo comme un père, comme un personnage fort sur lequel la famille pourrait s'appuyer. Et je crois que Davejo la voyait comme quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour le satisfaire. C'est tout ce qu'il attendait d'une femme.
Quelqu'un qui a l'habitude de traiter les femmes comme des objets, comme le faisait Davejo, connaît très bien les avantages de s'associer à une femme dépendante à la méthamphétamine. Il est alors en mesure de lui fournir l'argent nécessaire pour entretenir cette dépendance, ou même lui fournir directement la méthamphétamine, ce qui devient une façon de la dominer.
Michaud, une prostituée, et Davejo, un prédateur sexuel, forment donc le couple idéal.
Le travail d'une prostituée, c'est de se servir de son corps comme d'un objet et de le vendre, de l'utiliser pour satisfaire différents fantasmes. Une prostituée est le complément parfait d'un homme qui ne se sert des femmes que pour satisfaire ses besoins. Lorsqu'ils s'associent, toutes les conditions sont réunies pour qu'ils posent des gestes extrêmes.
Les enquêteurs approfondissent leurs recherches sur le duo criminel. Les découvertes se font de plus en plus troublantes.
Michelle Michaud avait une personnalité très intrigante. Elle savait présenter différentes facettes de sa personnalité à différentes personnes. Un prêtre à l'église aurait pu la considérer comme une excellente mère, celle qui apporte des biscuits aux réunions de parents d'élèves. Mais elle pouvait tout aussi bien aller dans un bar, jurer et se vanter de travailler comme tueuse à gages pour la mafia ou pour les Hells Angels.
James DeVeggio était obsédé par les tueurs en série. Cela le fascinait. Il avait même une collection de cartes de violeurs et de tueurs en série.
Il tentait de les imiter, d'acquérir la même notoriété qu'eux. Il voulait laisser sa marque.
DeVeggio montre un intérêt particulier pour un tandem de tueurs en série. Gerald et Charlene Gallego. Charlene aidait Gerald à enlever et violer des jeunes femmes. C'est une idée qui séduit beaucoup James DeVeggio.
Il n'est pas surprenant que DeVeggio et Michaud aient étudié des cas similaires aux leurs. Ça faisait partie de l'identité qu'ils s'étaient construite, de leur imaginaire, et c'est assez commun chez ce type de personnes. Nous avons tous des héros. Les prédateurs sexuels qui posent des gestes sadiques s'inspirent souvent de criminels qui ont posé des gestes semblables aux leurs auparavant.
La fille de Michel avoue à la police que les deux criminels vivent dans leur fourgonnette dans l'espoir d'échapper à la bande de motards à laquelle DeVeggio appartient.
Les Devil's Horsemen avaient accusé James d'avoir volé un coffre-fort qui contenait l'argent d'une discothèque. Il lui avait pris sa moto et l'avait chassé de la discothèque.
Dans les jours suivants, la police de Sacramento émet un avis de recherche à l'endroit de James DeVeggio et de Michelle Michaud pour l'agression sexuelle des deux mineurs. Ils avertissent aussi les autorités d'Auburn.
Lorsque des suspects vivent dans leur véhicule, comme dans ce cas-ci, il faut procéder de la même façon que dans n'importe quel cas. Il faut interroger les gens qu'ils connaissent et enquêter à l'endroit où ils ont été vus pour la dernière fois. Il faut poser beaucoup de questions et tenter de déterminer où ils se trouvent.
La police de Sacramento transmet à la police d'Auburn les photos d'identité des deux criminels. La femme qu'ils ont agressée confirme qu'il s'agit bien d'eux. La chasse à l'homme est maintenant ouverte.
Nous avons formé une équipe de 20 agents du FBI et nous avons demandé l'aide des bureaux de shérif, de leurs agents, des agents de libération conditionnelle, bref, de tout individu qui portait une arme et une insigne. Tout ce monde a pris la région d'assaut afin d'interroger tous ceux qui connaissaient les criminels.
Le 25 novembre 1997, alors que l'opération pour retrouver les prédateurs bat son plein, James DeVeggio et Michelle Michaud louent une chambre d'hôtel à Pleasanton, en Californie. DeVeggio connaît bien la région pour y être allé à l'école secondaire.
Pleasanton est considéré comme une communauté de classe moyenne supérieure. La plupart des crimes commis dans notre ville sont des vols ou des cambriolages. Il y a très peu de crimes violents. un ou deux homicides par année, tout au plus. Ils étaient venus à Pleasanton quelques fois pour choisir les victimes potentielles de leurs éventuels enlèvements.
Davejo et Michaud agissaient comme tous les criminels. Ils choisissaient leurs victimes à l'avance. Ils cherchaient des victimes vulnérables, des gens qui, de par leur situation, deviennent des proies faciles.
Il fête l'action de grâce à la résidence de l'ex-femme de Davejo et son nouveau mari. La fille de Davejo, âgée de 15 ans, est aussi présente. Pendant le repas, Davejo et Michaud parlent ouvertement de leurs intentions criminelles.
Ils se percevaient comme des tueurs en série. Je crois qu'ils avaient l'intention de commettre des crimes de plus en plus odieux.
Fin 1997, le FBI et les autorités du nord de la Californie ont ouvert une chasse à l'homme pour retrouver deux violeurs en série, Michel Michaud et James Davejo. Les suspects vivent dans leur fourgonnette. Ils tournent en rond pendant des heures, consomment de la méthamphétamine et attaquent des victimes choisies au hasard.
La consommation régulière de méthamphétamine par une personne qui est déjà à la base un prédateur sexuel a pour effet de lui faire commettre des actes encore plus graves.
Michaud et Davejo sont allés fêter l'action de grâce en compagnie de l'ex-femme et des enfants de Davejo. Mais ils sont partis en vitesse tout de suite après le repas parce que Davejo ne pouvait pas sentir le mari de son ex-femme. Et ils se sont loués une chambre dans un motel. Sa fille les a accompagnés à l'hôtel. Pendant la soirée, Davejo a tenté d'avoir des rapports sexuels avec sa fille, mais elle l'a repoussé. Il a insisté et il l'a violée. On apprendra plus tard qu'il l'avait déjà fait 4 ou 5 fois auparavant.
Davejo est un psychopathe. Il est absolument incapable de s'attacher à un être humain de façon normale et saine, ou de ressentir de l'empathie. Il ne voit les autres que comme des objets à exploiter pour son plaisir personnel. C'est un prédateur dans le vrai sens du terme.
Davejo et Michaud ne se rendent pas compte de l'ampleur que prend l'opération de recherche pour les retrouver.
Le FBI, en collaboration avec les enquêteurs et les autorités de Sacramento, passait la région au peigne fin pour les retrouver.
Mais les suspects, toujours sous l'effet de la drogue, partent en quête de leur prochaine victime.
Davejo et Michaud disaient souvent vouloir partir à la chasse, ce qui voulait dire qu'ils allaient à la recherche de leur prochaine victime.
Les prédateurs sexuels qui se livrent à ces comportements opportunistes et crapuleux s'en prennent souvent à des étrangers pour être en mesure de se distancier de leurs crimes. Ils choisissent surtout leurs victimes selon leur accessibilité et s'assurent de pouvoir commettre leurs crimes sans se faire prendre.
Les autorités apprennent que Michaud et Davejo ont commis une autre agression peu après l'enlèvement et le viol de Reno.
Ils ont ramassé une prostituée à Sacramento.
Cette femme savait exactement ce qui allait se passer. Et elle a pu repousser Davejo et s'échapper de la fourgonnette. Ils sont partis en trombe. Elle l'a échappé belle. Mais peut-être David Joe a-t-il compris à ce moment que s'il voulait maîtriser ses victimes à l'avenir, il devrait trouver un moyen de les immobiliser.
La prochaine victime ne s'en tirera pas si facilement.
Le modus operandi de ces criminels évolue avec le temps. Bien sûr, ils continuent d'humilier, de dominer et de torturer leurs victimes. Mais la façon dont ils parviennent à leur but, ce qu'ils font pour éviter de se faire prendre et les moyens qu'ils emploient pour dominer leurs victimes changent lorsqu'ils évitent le désastre de justesse. Ils ne sont pas stupides, ils savent s'adapter.
Ils avaient retiré les sièges arrière de la fourgonnette et installé des attaches pour pouvoir immobiliser leurs victimes. Il était évident qu'ils avaient tout prévu. Puis ils ont décidé de partir à la chasse.
Mais la chasse coûte cher.
À ce moment, ils n'avaient plus d'argent. Mais Michelle Michaud était admissible à l'aide sociale et elle a reçu un chèque de 500 $. Bien sûr, elle l'a donné à David Joe dès qu'elle l'a reçu. Pendant qu'ils se préparaient pour leur chasse, ou leur aventure, comme dirait Michaud, ils se sont arrêtés dans un magasin. Ils ont acheté un bâillon pour le mettre à leur victime et les empêcher de crier et d'attirer l'attention. Il était clair qu'ils se préparaient. Ils se préparaient pour leur aventure.
Les criminels se préparent à l'avance à réaliser leur fantasme. S'ils ont acheté ces objets, c'est qu'ils faisaient partie de leur fantasme. Ils se préparaient à utiliser ces objets dans leurs interactions avec leurs victimes.
L'histoire des deux criminels se répand rapidement et Linda Marshall décide d'avouer la vérité sur le viol dont elle a été victime à Pleasanton.
Elle n'avait pas révélé l'identité de ses agresseurs à la police parce qu'elle en avait peur. Elle avait peur de se faire tuer. Elle était amie avec une de leurs filles. Elle les connaissait de vue et de nom.
Les autorités se demandent maintenant à combien s'élève le nombre de victimes.
Cette affaire n'était pas comme les autres. Michelle Michaud et James DaVeggio choisissaient leurs victimes à l'aveuglette. Ils agressaient des membres de leur famille, même leurs propres enfants. Ils agressaient leurs connaissances. Ils ont ramassé une prostituée. Ils ont agressé une jeune étudiante de Reno. Ils agressaient n'importe qui.
À la base, ils étaient le genre d'individus qui ne se soucient que d'eux-mêmes. De plus, leur toxicomanie les rendait encore plus impulsifs, plus colériques, plus imprévisibles. La drogue augmente le risque de commettre des actes de violence.
Début décembre 1997. Depuis 9 semaines, deux prédateurs sexuels drogués à la méthamphétamine, James DaVeggio et Michelle Michaud, traquent et violent des victimes qu'ils choisissent au hasard. La chasse à l'homme entreprise par les autorités locales et fédérales n'a toujours pas porté fruit.
Nous avons envoyé un avis de recherche à tous les services de police de la région de Sacramento. Le FBI a aussi diffusé leurs photos d'identité, un compte-rendu des événements, une description de leur fourgonnette et a précisé qu'on ne savait pas où ils se cachaient à ce moment.
Dès que la police de Sacramento nous a avisé que ces gens étaient recherchés pour des crimes aussi graves qu'un enlèvement et un viol, nous avons pris l'affaire très au sérieux.
Mais les déplacements continuels de Daveggio et de Michaud donnent du fil à retordre à la police. Le couple revient à Pleasanton. Ils se baladent en voiture toute la nuit, consomment de la méthamphétamine et parlent de chasse.
Quelque temps après avoir achevé les préparatifs pour la chasse ou pour l'aventure, comme le disait Michaud, ils se sont mis à errer dans les rues de Pleasanton, où Daveggio avait grandi.
Le matin du 2 décembre, Vanessa Sampson quitte la maison et marche en direction de son travail, situé à moins de 2 km de chez elle.
La méthamphétamine rend complètement déchaînée. Daveggio sentait la rage monter en lui en voyant tous les endroits à Pleasanton où il avait été humilié et rejeté.
Vanessa était une très belle jeune fille de 22 ans. Son père tenait à elle comme à la prunelle de ses yeux. Elle était sa meilleure amie et sa partenaire de pêche. Lorsqu'elle entrait dans une pièce, elle l'illuminait de son sourire. C'était la plus jeune de la famille. Elle était aussi très proche de son frère, de sa sœur et de sa mère. C'était une jeune fille exceptionnelle.
La victime était ligotée dans la fourgonnette, les mains derrière le dos, complètement immobilisée, un bâillon dans la bouche, incapable de crier à l'aide, les yeux bandés de façon à ce qu'elle ne voit pas ce qui lui arrive. Tout ça démontre son désir de voir sa victime complètement impuissante. Il ne voulait pas qu'elle puisse voir ou prévoir à quel moment elle serait violentée ou humiliée. C'est un bon exemple de son désir extrême de domination.
À midi, la mère de Vanessa Sampson appelle au service de police de Pleasanton pour signaler la disparition de sa fille. Mais la disparition de Vanessa est trop récente pour qu'on produise un rapport.
Dans ces cas, on attend avant de sauter aux conclusions et de déclarer qu'un crime est survenu. Dans cette ville de 65 000 habitants, où 150 000 autres personnes viennent travailler, il n'est pas rare qu'on déclare une personne disparue. Mais très peu s'avèrent être des cas d'enlèvement.
Michel Michaud reprend la route vers Sacramento, au nord, pendant que James Daveggio agresse Vanessa Sampson à plusieurs reprises à l'arrière de la fourgonnette. Mais Michaud doit bientôt s'arrêter dans une station-service pour faire le plein et acheter de la nourriture et des cigarettes. Il passe ensuite prendre le chèque d'aide sociale de Michaud à Sacramento et rebrousse chemin vers Lake Tahoe Sud, où il loue une chambre d'hôtel.
Ils se sont arrêtés à plusieurs reprises en chemin. À chaque arrêt, Michel Michaud aurait pu décider de libérer Vanessa Sampson.
Daveggio et Michaud font entrer Vanessa en douce dans leur chambre et poursuivent leur brutale agression. Ce soir-là, à 22h, la mère de Vanessa Sampson rappelle le service de police de Pleasanton. Les agents reconsidèrent la situation et décident finalement de produire un rapport de personnes disparues.
Vanessa était une jeune femme très responsable qui vivait une vie rangée. Qu'elle disparaisse soudainement sans répondre aux appels sur son téléavertisseur, sans appeler ses parents, ses amis, son petit ami, qu'elle ne se présente pas au travail, tout ça était très louche.
la police avise les médias de la disparition de Vanessa. Le lendemain, les agents interrogent les résidents du quartier pour obtenir des renseignements sur les circonstances de sa disparition. Ses amis et sa famille joignent leurs efforts pour répandre la triste nouvelle. David, Joe et Michaud quittent l'hôtel, emmenant Vanessa avec eux. Les autorités de Pleasanton enquêtent sur la disparition de Vanessa Sampson sans savoir que James DaVeggio et Michelle Michaud sont recherchés par le FBI. Le 3 décembre 1997, la police de Pleasanton en Californie recherche Vanessa Sampson, disparue la veille alors qu'elle se rendait au travail. Après avoir interrogé tous les habitants du quartier, les policiers explorent une première piste.
Un voisin qui rénovait sa maison, située directement derrière nous, était sur le toit avec un de ses amis. Ils ont entendu un bruit, un petit cri. Ils se sont immédiatement relevés. Et ils ont aperçu une fourgonnette verte, un modèle récent, à notre droite, qui démarrait. Derrière le volant, il y avait une femme, aux longs cheveux foncés.
Les policiers fouillent le quartier à la recherche d'indices. Ils n'en trouvent aucun. Le même jour, le FBI et les autorités locales de Reno et de Sacramento poursuivent leur chasse à l'homme pour retrouver Michelle Michaud et James DaVeggio, désormais recherchés pour 4 enlèvements suivis de viols. DaVeggio et Michaud errent sans but dans les environs de Lake Tahoe Sud. Avant de s'arrêter dans un motel situé en face du palais de justice où doit comparaître Michelle Michaud pour avoir émis des chèques sans provision.
Même s'ils étaient drogués, il n'est pas surprenant qu'ils se soient arrêtés au beau milieu de cette série de crimes horribles. Ils étaient en contrôle d'eux-mêmes, ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. On peut en déduire que malgré leur consommation de drogue, malgré les crimes horribles qu'ils avaient commis, ils savaient toujours distinguer le bien du mal.
Mais ils ignorent qu'ils sont sur le point de tomber dans les filets de la justice.
Dès le début de nos recherches, nos agents ont appris que Michelle Michaud était arrivée à Lake Tahoe pour comparaître en cour. Nous avons aussi appris qu'elle devait se présenter au palais de justice du comté de Douglas, juste de l'autre côté de la rue. On nous a aussi informé que Michelle et James avaient l'habitude de dormir à l'hôtel situé directement en face du palais de justice. Nous nous sommes donc immédiatement rendus au Lakeside Inn and Casino, où on nous a confirmé que c'est ici qu'ils logeaient. Deux de nos agents ont arpenté le casino à la recherche des suspects. Et ils ont trouvé James DaVeggio. Ils l'ont tout de suite arrêté, en plein casino.
Mais capturer Michelle Michaud ne s'avérera pas aussi facile.
Après l'arrestation de James dans le casino, nous avons élaboré un plan pour arrêter Michelle. Je devais m'habiller en gardien de sécurité du casino et essayer de la convaincre de m'ouvrir la porte. J'ai frappé à la porte et j'ai dit à Michelle que James s'était effondré dans le casino et qu'il la réclamait. Après avoir cogné plusieurs fois et lui avoir expliqué la situation en long et en large, elle a finalement ouvert la porte. Nous l'avons sortie de la chambre de force et nous l'avons arrêtée.
Les autorités saisissent leur fourgonnette. Mais il ne reste aucune trace de Vanessa Sampson. 2 mois après le début de leur folie criminelle, James DaVeggio et Michelle Michaud sont arrêtés. Le FBI et les autorités de Sacramento et d'Auburn peuvent enfin interroger les suspects.
J'ai passé quelques temps avec Michelle Michaud et je l'ai trouvée très manipulatrice. Elle parlait ouvertement de ce qu'ils avaient fait Mais il était évident qu'elle s'efforçait de se protéger. Ça a été un échec lamentable. Il était très clair pour tout le monde qu'elle avait participé de plein gré à l'enlèvement de ma victime et de toutes les autres victimes.
Les gens croient souvent que dans un couple de criminels, la femme tient toujours le rôle de la victime. J'ai observé cette situation dans quelques cas, mais dans bien d'autres cas, la femme joue un rôle de premier plan. Elle est souvent tout aussi coupable de comportements déviants que l'homme.
Michel Michaud avoue sa culpabilité et celle de Daveggio dans l'enlèvement et le viol de Reno, avant de s'effondrer, accablé de fatigue et des effets du sevrage de méthamphétamine. Le 4 décembre, l'opération pour retrouver Vanessa Simpson prend fin dans le désespoir général.
Un camionneur a retrouvé le corps de Vanessa sur un talus enneigé. Il s'est arrêté sur l'accotement et a regardé en bas de la pente. Vanessa gisait à 8 mètres de la route, dans la neige, comme un déchet. C'était horrible. La mère de Vanessa a prié pendant des jours pour qu'on la retrouve vivante. Lorsqu'on a retrouvé son corps, elle était tout de même reconnaissante, car elle pouvait au moins offrir un enterrement convenable à sa fille adorée.
Mon seul regret, c'est d'être arrivé un jour trop tard. Si nous avions arrêté Daveggio et Michaud la veille, nous aurions pu prévenir la mort de Vanessa Simpson.
James Daveggio et Michel Michaud sont détenus à la prison du comté de Douglas. Daveggio ne parle qu'en présence de son avocat.
Lorsque nous avons découvert que Michaud et Daveggio étaient les principaux suspects dans le meurtre de Vanessa Simpson, nous avons immédiatement averti le bureau du shérif du comté de Douglas que les deux individus qu'ils tenaient dans leur prison étaient peut-être coupables de meurtre. Quelques heures plus tard, un agent du comté de Douglas m'a rappelé pour me dire que Michel Michaud avait approché un membre du personnel de la prison pour lui dire qu'elle désirait parler à quelqu'un à propos d'un meurtre.
Daveggio disait que Michaud avait commis les meurtres, tandis que Michaud soutenait que c'était Daveggio. Michaud disait qu'elle était au volant lorsque le meurtre a eu lieu. Il semble que Daveggio ait étranglé Vanessa de derrière. Michaud a arrêté la fourgonnette, en a fait le tour, a ouvert la portière, et Daveggio lui a mis les deux mains sur la corde enroulée autour du cou de Vanessa Simpson. Il l'a regardée et il lui a dit « Maintenant, nous sommes liés », en voulant dire qu'ils avaient commis ce crime ensemble.
Après une arrestation, les duos de criminels se retournent parfois l'un contre l'autre. En fait, c'est souvent ce qui se passe. Ils essaient de sauver leur peau. Ce sont des gens égoïstes et narcissiques qui ne se soucient que d'eux-mêmes. C'est pourquoi ils accusent leur partenaire. « Il m'a forcé à le faire. » »« Non, c'est lui qui m'a forcé. » Et ainsi de suite. Lorsqu'ils font face à la peine de mort, les criminels qui ont posé ce genre de gestes horribles perdent tout sentiment de loyauté.
Le 16 novembre 1998, dans un tribunal fédéral, Michel Michaud accepte de plaider coupable de complicité dans l'enlèvement de la victime de Reno en échange de son témoignage contre James Daveggio. Le 19 mai 1999, James Daveggio est déclaré coupable. Il est condamné à 22 ans de prison. Ils nient tous deux avoir agressé leur fille. Les procureurs abandonnent ces chefs d'accusation et se concentrent sur le meurtre de Vanessa Simpson. En mai 2002, un jury reconnaît James Daveggio et Michel Michaud coupables du meurtre au premier degré de Vanessa Simpson. Ils sont condamnés à mort.
James Daveggio
James DaVeggio est tout ce que vous pensez. C'est un violeur, un prédateur, une ordure. Michel l'a même rendu un meilleur prédateur. Michel Michaud est une professionnelle de la manipulation. Si elle avait voulu épargner Vanessa, celle-ci serait toujours en vie aujourd'hui. Elle aurait pu la libérer lorsqu'elle s'est arrêtée acheter une boisson au dépanneur. Elle aurait pu la libérer au bureau de l'aide sociale. Elle aurait pu la libérer à l'hôtel. C'est le diable en personne.
James DaVeggio et Michel Michaud sont en attente de leur exécution alors que leurs causes respectives sont toujours en appel. Mais la mort tragique de Vanessa hante toujours Angela Backers.
Chaque année, à l'anniversaire de Vanessa, sa mère fait dire une messe en son honneur à l'église de la paroisse Saint-Augustin. Nous allons à la messe de midi. Puis après la messe, nous visitons sa tombe. Tous ses amis de l'école secondaire et sa famille, qui comprend maintenant quelques jeunes enfants, organisent une fête pour elle. Nous laissons s'envoler des ballons et nous portons un toast en son honneur.